Je m'appelle Philippe Cohen-Solal. Je suis né à Paris, vécu quasiment toute ma vie à Paris, sauf entre l'âge de 16 ans et 18 ans, où j'ai habité la ville de la vieille ville, non, la nouvelle ville et après la vieille ville de Jérusalem. Donc, justement, avec beaucoup j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque-là au niveau sonore, justement. Mais en tout cas, oui, donc je me sens complètement parisien et je vis depuis 93, dans le 1993, je vis dans le 10e arrondissement, après avoir égrené pas mal de quartiers, et j'habite maintenant et je travaille dans la même rue, dans le même immeuble, rue Martel, où j'ai d'abord installé mon studio en 98, à une époque où le quartier était pas aussi populaire, enfin il était populaire, mais pas dans le sens hipster ou branché qu'il l'est aujourd'hui. Donc ça, il y a une grosse différence. Voilà, et puis j'y ai quelques années plus tard. Enfin non, j'ai habité déjà dans le 10e, et puis après je suis allé m'installer dans le même immeuble là où je travaille. Donc la distance domicile-travail est très courte. Voilà. Et j'apprécie beaucoup ça parce que de temps en temps, je vais travailler pour d'autres personnes, d'autres artistes, en tant que là, comme producteur plutôt, enfin réalisateur ou co-réalisateur. Et là, du coup, je vais dans d'autres endroits et j'aime bien, mais voilà, moi j'aime bien la proximité avec mon lieu de travail, avec mon outil de travail, parce que c'est très important, ça fait partie de ma vie de façon. C'est très présent dans ma vie quand même, le travail. Voilà, mon parcours, il est assez atypique parce que même si j'ai fait de la musique assez tôt, préadolescent, enfin à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 13 ans, j'avais fait un groupe avec des copains. On faisait la manche dans les rues de Paris, mais particulièrement au printemps évidemment, et sur les terrasses, devant les terrasses des cafés à Saint-Germain, Saint-Michel, et voilà, et on chantait les chansons des Stones et des Beatles, de Dylan à cette époque-là. On n'était pas très grands, mais on avait des grosses guitares, et voilà, et ça se passait bien. Et puis après, voilà, j'ai vraiment fait de la musique comme un jeune. Après, le punk est arrivé, ça a été important pour moi. Même si avant j'étais dans vraiment d'autres musiques, la pop, le rock, et puis le jazz, puis même le free jazz, mais le punk, ça a été vraiment un truc, puisque c'était vraiment à l'époque où j'étais adolescent, en 77, j'ai pris ça en pleine face, quoi, et ça a été très important. En même temps, à l'époque, j'écoutais du disco, j'étais ouvert sur d'autres musiques, Kraftwerk, donc d'une certaine façon, les prémices de la musique électronique ou de la techno actuelle. Voilà, et puis. Mon premier métier à l'âge de 20 ans, ça a coïncidé avec la libération de la bande FM. C'est-à-dire en 81, quand Mitterrand est arrivé, bah, j'ai tout de suite, même avant, même que. Oui, je pense que dès qu'il a été élu, il y a les premières radios pirates qui sont créées. Et j'ai travaillé tout de suite dans une radio pirate ou libre, enfin, on peut appeler ça comme on veut, qui s'appelait Radio J, qui existe toujours d'ailleurs. Et là, j'étais comme technicien, voilà, je travaillais comme technicien, programmation, mais c'était super intéressant. Et puis moi, surtout, pour la première fois, j'ai vu qu'on pouvait faire un travail et s'amuser avec en plus. Ça, c'était, j'avais pas pensé que ça pouvait exister. Et voilà, et très rapidement, j'ai travaillé avec une radio plus professionnelle qui était créée par un journal qui s'appelait Le Matin de Paris, qui n'existe plus, mais Le Matin de Paris a fait une radio qui s'appelait Radio Capitale, avec des professionnels. Il y avait Alexandre Marcelin qui venait de Europe 1, de FIP, etc. Il y avait Stéphane Paoli qui était à la formation, donc un grand journaliste. Et moi, je faisais à l'époque la programmation, technicien aussi. Et j'adorais ça. Et après, la radio n'a pas duré super longtemps, mais l'équipe m'a emporté avec eux quand Europe 1 a monté leur radio FM, qui s'appelait 95.2 FM. Et donc, une radio très, très pro, quoi. Voilà. Et donc là, j'étais vraiment au tout début de cette radio, et toujours en tant que programmateur et réalisateur, technicien. Et en fait, un jour, ils m'ont demandé de parler dans le micro. Et ce que j'avais pas spécialement envie, mais je l'ai fait. Voilà. Et puis ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu une émission quotidienne. Voilà. Donc je suis devenu animateur de radio, en fait, pendant quelques années. Après, je suis passé à Skyrock, tout début Skyrock, qui était une radio assez différente de ce qu'est Skyrock actuellement. Et puis, comme les radios dites libres, était de moins en moins libre, parce que moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était de pouvoir passer de la musique que j'aimais. Et petit à petit, l'entrée des playlists, c'est-à-dire de la musique qui était en fait imposée par mon patron et par les patrons de la radio, etc., par des programmations, là, ça a commencé à moins m'intéresser, parce que moi, ce que je voulais, c'était justement la liberté de la radio. Et donc, j'ai commencé à travailler comme directeur artistique dans une maison de disques, Polydor. Et comme voilà, et donc mon boulot c'était d'écouter des maquettes, qu'à l'époque c'était des cassettes qu'on nous envoyait, donc, et d'essayer d'écrémer tous les trucs et de temps en temps essayer de signer des choses. Donc voilà, moi c'était un métier que j'ai pas qui ne me correspondait pas spécialement, parce que d'abord parce que je n'ai pas du tout la science infuse sur ce qui peut marcher ou ce qui va marcher. Moi je peux savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais je ne peux pas du tout savoir ce que le grand public va aimer. Donc, et quand on est directeur artistique d'une major compagnie, une grosse compagnie comme Polydor, et ben on est censé signer les tubes, quoi, les gros trucs. Et c'était pas ça mon truc clairement. Par contre, ce que j'ai découvert là-bas, c'est que mon truc, ça allait être le studio. Parce que comme je voulais échapper au maximum à le travail de bureau, parce qu'il fallait passer pas mal d'heures de la journée à écouter des maquettes, pas toujours très bonne qualité en plus, ou souvent de mauvaise qualité même, derrière un bureau, dès que je pouvais en fait aller avec des artistes pour réaliser leurs disques, travailler en studio avec eux, j'ai tout sauté sur n'importe quelle occasion. Et pour aller en studio. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier de producer, on va dire, de réalisateur artistique. Et par un hasard et une chance assez incroyable à l'époque, puisque c'était un groupe en plus qui devait se faire virer de la maison de disques. Ils avaient prévu de le virer, ils leur donnaient une dernière chance, qui était un 45 tours à l'époque. Et j'ai réalisé ça, parce que personne ne voulait le réaliser. Oui, la maison de disques ne voulait pas payer un réalisateur. Et donc, du coup, j'ai réalisé un truc qui a, en fait, a eu un succès énorme, qui était un groupe qui n'existe plus maintenant, mais qui a vraiment marché à l'époque, qui s'appelait Raft, un morceau qui s'appelait Y'a qu'à danser, et ça a été numéro un du top 50. Enfin, c'était énorme, 650 000 exemplaires de 40 directement. Enfin, c'était un gros truc. Donc, j'ai, voilà, mais en tout cas, là, ça, la direction artistique m'intéressait pas vraiment, et puis et on s'est séparé avec la maison de disque, et j'ai eu 3 mois de chômage. Pendant ces 3 mois de chômage, j'ai découvert dans la rue aussi, hein, quelqu'un qui faisait la manche au hall, devant le Père Tranquille, le café le Père Tranquille, et j'ai réalisé ses premières maquettes, et c'est Kezia Jones, les époque, il faisait, ouais, il chantait dans le métro, il faisait des terrasses, et j'ai produit ses premières maquettes avec lesquelles je suis allé faire le tour des maisons de disques qui m'ont pas du tout, ça les a pas intéressés. Entre-temps, moi, je suis rentré chez Virgin, qui était une maison de disques et une maison d'édition, pour m'occuper de musique de film, mais monter un département de musique à l'image, donc ce qui était assez nouveau. Donc, je me suis retrouvé premier music supervisor en France. Il y avait pas, ce métier n'existait pas bizarrement en France. Il y avait des éditeurs qui plaçaient des musiques, mais là, mon boulot, c'était vraiment de conseiller les réalisateurs de films, les producteurs aussi, mais particulièrement, et les décharger de la musique, en fait. Alors, voilà. Et ça, c'était un boulot que j'ai adoré. J'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs très, très, vraiment brillants, comme Lars von Trier. Donc un réalisateur danois incroyable. J'ai travaillé avec Krzysztof Kieślowski, un réalisateur polonais aussi tout aussi talentueux. Nikita Mikhalkov, réalisateur russe. J'ai travaillé avec Zhang Yimou, un réalisateur chinois, avec des Français bien sûr, Bertrand Tavernier, Tony Marshall. Enfin voilà, ça a été vraiment un métier que j'ai adoré. Entre-temps, Kezia Jones a signé dans la maison de disques dans laquelle j'ai travaillé. Et puis, mais mon métier, c'était vraiment travailler dans la musique à l'image. Parallèlement, je commençais à faire de la musique, recommençais à faire de la musique là, un peu plus professionnellement, avec l'arrivée de la house music, de la techno, de la musique qu'on appelle aujourd'hui de la musique électronique. C'est arrivé au même moment où j'ai commencé à travailler sur la musique de film. Sauf qu'à l'époque, je n'osais pas faire écouter mes propres musiques ou ce type de musique, même à des réalisateurs, parce que c'était très mal vu. Aujourd'hui, la musique électronique, elle était même au musée, à la Philharmonie, enfin, il n'y a pas longtemps. Mais à l'époque, c'était, si je faisais ça écouter, je faisais écouter cette musique à des réalisateurs, ils m'auraient mal, j'aurais été mal considéré en fait, voilà, parce que c'était la musique de la musique techno, c'était considéré comme musique de pechno, quoi, presque. Et petit à petit, ça a commencé à changer. J'ai commencé à faire écouter. Ben, d'ailleurs, le premier à qui j'ai fait écouter cette musique, c'est Bertrand Tavernier, qui est un gros fan de jazz. Et nous, on était à Prague, et une fois, je lui ai parlé de la techno, comme le bebop l'était dans les années 50. C'est une histoire de transe, de répétition, d'expérimentation, et ça l'a intéressé. Donc, j'ai réussi à mettre de la techno dans un de ses films, Lapa. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'ai continué à faire ma propre musique. Après l'expérience Virgin, j'ai créé ma propre structure, mon propre label, toujours comme conseiller musical pour le cinéma. J'ai commencé à faire des musiques de pub, musique de documentaire, toujours. Voilà. Mais plus à mon compte, on va dire en freelance. Et en 95, 96, j'ai créé mon label. Donc, il y a Basta Records qui existe encore, pour juste, en fait, pour produire, mais pour sortir mes musiques, en fait. Parce que, avec l'expérience de Kezia Jones, qui avait été refusée un peu partout, entre-temps, j'avais aussi amené Zazie chez Mercury, dans la maison de disques Mercury, parce que Zazie, c'était une amie, donc voilà. Mais j'ai vu que. Enfin, j'ai commencé à faire écouter ma musique un peu dans des maisons de disques à Paris, puis. Et puis, je me faisais carrément jeter de partout, globalement. Donc, je me suis dit, je vais les sortir moi-même, quoi. Directement du producteur au consommateur, sans passer par les distributeurs, on va dire. Enfin, donc, je faisais fabriquer des vinyles à l'époque, et je les amenais, je les mettais dans la voiture, et je les amenais dans les magasins de disques à Paris, à Londres, et voilà. Et puis, heureusement, il y a eu le phénomène de la French Touch, qui a fait que les producteurs français, les musiciens français de musique électronique ont été tout de suite beaucoup plus intéressants pour les Anglais. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'amenais mes premiers vinyles au magasin de disques anglais, ils étaient assez pas très chauds d'écouter un truc venant de France, parce que la France n'avait pas vraiment, n'avait pas encore marqué son empreinte dans la musique électronique en tout cas. Et puis dès qu'il y a eu des groupes comme Air, Daft Punk et tout ça, tout d'un coup, ah, c'est ça, ah, t'es français, t'es parisien, ah, super. Donc ça les intéressait. Et donc, moi qui ne faisais pas partie de ce mouvement de la French Touch, même si c'est des copains et j'aime beaucoup cette musique, mais c'était pas mon truc, ma musique a commencé à se faire entendre un peu partout dans le monde. Et jusqu'au jour où il y a eu. Petit à petit, enfin, dans les fins des années 90, j'ai commencé un nouveau projet qui s'appelle Gotan Project, qui était vraiment un mélange de musique électronique et de tango argentin et de musique folklorique argentine. J'ai toujours mélangé, toujours aimé mélanger les sonorités du monde. Je ne suis pas spécialement fan de world music, mais j'adore la musique dans le monde entier, enfin, de toutes les musiques qui peuvent provenir de. Ça m'intéresse, enfin voilà. J'ai aimé les mélanger avec la musique électronique. Essayer de voir s'il y avait des ponts. Et voilà. Et Godin Project a été un des projets que je faisais parmi d'autres, qui a vraiment été écouté, reconnu, qui a vraiment intéressé le public. Au début, le public de la musique électronique, puis après, le public du tango, et puis après, le public de jazz, the world, le grand public. Et voilà. Et on a eu vraiment un succès international avec plus de 3 millions et demi d'albums vendus, on a fait des concerts dans les plus belles salles du monde entier. On a vraiment fait des tournées mondiales toujours complètes pendant 10 ans. Enfin, ça a été une aventure assez incroyable. Et voilà, ce qui m'a permis aussi de faire le tour du monde et de m'imprégner d'autres musiques et de faire d'autres aventures toujours sur mon label, que ce que je continue à faire aujourd'hui.